de Monroe, comme ça. Et en fait, au lieu d'avoir des pas comme ça, c'est linéaire, quoi. La cursa, c'est des curseurs. Oui, bonne idée. La cursa, c'est des curseurs, oui. Mais ce n'est pas des roues de Monroe. Bon, alors là, c'est pour expliquer un petit peu. Donc voilà les roues de Monroe. Et puis voilà les hélices à retenue qui sont dans l'autre. Vous voyez qu'il y a deux hélices qui tournent en sens inverse, l'un pour l'addition et puis l'autre pour la soustraction. Donc c'est des grosses, grosses hélices. Enfin, c'est énorme dans la machine. Donc au-dessus de ça, en fait, il n'y a pratiquement rien dans la machine. Il y a la manivelle, il y a quelques engrenages qui commandent tout ça. Et puis au-dessus de ça, il y a le chariot qui bouge. Donc quand on enlève le chariot, on tombe là-dessus. Ça va entraîner le totalisateur, et ça va entraîner les retenues du totalisateur. Alors que peut-être on peut le mettre plus tard, dans ce système-là, en fait, seule la moitié ou un peu plus de l'engrenage est utilisée, l'autre partie est utilisée pour faire la propagation de la retenue. C'est-à-dire qu'on fait d'abord l'addition modulo 10 et puis ensuite la propagation de retenue. Alors la célèbre roue de Hodner, qui est une variation de ça, c'est la roue à nombre de dents variables. Ah oui, Baldwin, oui. Alors c'est amusant, c'est tout à fait intéressant parce qu'en Europe, c'est appelé la roue de Hodner et aux États-Unis, c'est appelé la roue de Baldwin parce qu'ils ont déposé leur brevet pratiquement au même moment, donc en 1875 pour Baldwin et en 1877 en Russie, donc en russe, par Hodner. Hodner travaillait pour Nobel. On lui avait donné. Pardon?
Ça paraît clair, c'est
Ah oui, tout à fait. Ah mais tout à fait.
Pourquoi tu as marqué roue de Hodner?
Parce qu'en France, c'est connu sous le nom de roue de Hodner. Et aux États-Unis, c'est connu sous le nom de roue de Baldwin, mais quand Pollini, oui, vous avez raison. Mais quoi qu'il en soit, quand Hodner a déposé son brevet aux États-Unis, il a fait référence, il a dit qu'effectivement, il déposait un truc sur une idée de Baldwin. Mais il est vraisemblable qu'ils ne se sont pas connus, enfin, qu'il n'y ait pas eu de fuite. Parce qu'à l'époque, on naviguait pas tellement entre Saint-Pétersbourg et puis je ne sais pas où il était, Baldwin, on naviguait pas si facilement que ça. Donc c'est fait donc de deux roues qui peuvent tourner l'une par rapport à l'autre, et l'une est munie d'un espèce de cran avec un petit pas, et donc ce petit pas fait sortir ou au contraire rentrer une dent qui est de section carrée, plus ou moins arrondie. Et donc la dent mobile a un petit ergot que j'ai dessiné ainsi en rouge, et en fonction de la position de ce levier-là, on va faire sortir zéro dent, une dent, deux dents, trois dents, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus petit que la roue que j'avais montrée précédemment, de Leibniz ou bien de Monroe. Et donc ça permet de faire des machines relativement compactes en mettant toutes ces roues, etc. Il faut dire que toutes ces roues, l'avantage aussi, c'est que toutes ces roues sont commandées par le même axe après, par la manivelle, donc elles tournent ensemble.
Et on peut même utiliser un système un peu analogue pour faire la retenue,
Oui,
avoir une dent qui.
yes, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez lu la suite déjà, ou bien si vous avez, etc. Mais oui. Alors oui, Hodner et Baldwin. Alors ça, c'est amusant parce qu'on a des photos de tous les deux âgés pratiquement de la même année. Alors il était suédois, comme je vous l'ai dit, Nobel. Il avait travaillé pour Nobel avec une machine à manivelle là, qui était la machine française là, qu'on a vu juste précédemment. Je me souviens plus très bien. Il a trouvé que c'était très gros et donc il a inventé ce truc-là. Oui. Alors il a inventé ça avec la bénédiction et les capitaux de Nobel qui manquaient pas de capitaux vraisemblablement à l'époque. Voilà. Alors la dernière que je vais présenter, c'est la roue de Hamann, c'est la roue à contact intermittent. En fait, on a deux roues qui sont concentriques, enfin je ne vous montre pas les axes, il y a celle-ci qui porte des petites dents à l'intérieur, celle-ci qui est là, qui est en bleu clair et qui porte cette petite dent, et cette petite dent fait saillie ou au contraire rentre dans le rang suivant la position de ces deux disques rouges et bleus. Donc, ou bien on laisse peu d'espace entre les deux, et à ce moment-là, la roue est toujours, etc. Et donc, en fait, l'angle entre ce disque rouge et ce disque bleu vous donne l'angle pendant lequel ça et ça vont être engrainés et non engrainés pour le reste. Alors, on peut voir que, comme on a deux disques, c'est forcément ça engraine au maximum un demi-tour. Ça ne peut pas faire, ça ne peut pas faire mieux. Et la position de ce petit doigt là fait qu'on engraine 0, dixième de tour, un dixième de tour, deux dixièmes de tour, trois dixièmes de tour, etc. Alors l'avantage de ce truc-là, c'est que le curseur, disons, d'entrée ne bouge pas. Donc on peut vérifier à l'œil, etc. La roue d'Hohner a cet inconvénient, c'est que tout tourne. Donc pendant qu'on tourne la manivelle, on ne voit vraiment plus rien. C'est-à-dire que le curseur qu'on a positionné tourne. Voilà. Donc c'est la roue de Hamann qui était très connue. Il y en a encore d'autres. Ah, ça c'est pour la française, parce que c'était... Ah non, c'est une machine suisse, oui, pardon. La Demos. Alors la Demos, elle est assez simple. Le compteur, le totalisateur peut se déplacer de façon cyclique. Donc tantôt il est là, tantôt il est là. Et on fait varier, si vous voulez, la phase entre ce disque-là et le fait qu'il se déplace pour dire, eh bien, il est en contact sur une seule dent, puis après il se déplace, et il est en contact sur deux dents, et puis après il se déplace, etc. Voilà. Oui, tout à fait, le problème. Tout à fait, mais c'était pas des machines de guerre, toutes ces machines Hohner et autres trucs, c'était des machines à manivelle, donc on n'allait pas très 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 vite. Alors l'inconvénient de ces machines, c'est que les attaques sont simultanées. Donc je vous avais fait un petit dessin la dernière fois en disant là, on peut incrémenter un ou pas incrémenter, on peut incrémenter, etc. Donc on a neuf temps pendant lesquels on fait l'incrémentation, puis après on a le report de l'addition. Donc en 19 temps, on marche, ou en 20 temps élémentaires. Alors ces temps élémentaires sont donnés par des vingtièmes de tour de la manivelle ici. Donc voilà, c'est ce qui vous fait l'horloge interne de votre machine, c'est les tours de manivelle. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que si ça représente les 1, eh bien pour tout chiffre non nul, on va attaquer simultanément. Donc en fait, les roues de Hohner sont légèrement décalées de façon à décaler les attaques. C'est-à-dire qu'on attaque les unités, puis un peu plus tard, on attaquera les dizaines, puis etc. Donc au lieu de faire clac, 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 ça fait un mouvement un peu plus doux. Et la personne qui tourne la manivelle est un peu moins sensible à ça. Il est à remarquer que dans les machines à moteur électrique, on n'a pas ce genre de précaution. Boum, ça, on va le plus vite possible.